auditeur de Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce vendredi 3 octobre. Je suis Lia et je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son et j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir dans les studios Jérémy du groupe mythique Les Flying Donuts. Tu es accompagné d'Olivier, batteur qui rejoint Les Flying sur leur prochaine date. Olivier, tu es aussi le batteur du groupe Obsession qui organise sa release party le 11 octobre à la Souris Verte et justement, c'est ce soir-là que Les Flying feront leur grand retour sur scène pour ouvrir les festivités de cette release. Bonjour à tous les deux, comment ça va ?
Ça va très bien.
Salut, ça va, ça va.
Alors Jérémy, tu me disais que tu étais déjà venu dans les studios de Radio Guémozo.
Alors ça ne me rajeunit pas, ouais, je suis venu il y a très longtemps, à l'époque où c'était ce fameux Hervé qui nous avait très bien reçus,
ouais.
Pour faire la promo, je crois, d'un concert chez Narcisse au Val d'Ajol, il y a longtemps.
Ouais. Voilà. Et alors, t'en gardes un bon souvenir ?
Ouais, c'était très cool. Et puis, je suis venu aussi pour l'émission de notre ami Mitch. Honte à moi, je ne sais plus le titre.
Memento Mori, on les embrasse.
Voilà.
Ah, super. Olivier, tu es déjà venu aussi ?
Oui.
Il y a peu.
Au mois de juillet, je crois, non ?
Bah ouais, au mois de juillet, je crois, tout à fait. Alors, je suis vraiment ravie de vous avoir tous les deux aujourd'hui avec moi dans le cocon confortable, je l'espère, de l'odeur du son. Et justement, première question, est-ce que selon vous, le son a une odeur ?
Bonne question, Olivier. T'en penses quoi ?
Aide-moi.
Là, je sais pas, comme ça, je pense à... Ouais, je pense à des vinyles, des trucs, des vinyles, des Flying que j'ai à la maison, qui ont une odeur particulière, ouais.
Mm-hmm.
Ouais, ouais.
Moi, je suis en train de faire un peu le tri dans tout le merchandising Flying qui nous reste, parce que le but, c'est de le brader gentiment. Et mon frère ayant eu la bonne idée de le remiser dans une cave, il y a un peu d'odeur aussi.
Pas mal.
Non, je rigole.
Deuxième question incontournable de cette émission. Si vous deviez vous présenter avec vos mots à vous, ça donnerait quoi ?
Alors, moi, je veux bien commencer. Jérémy, voilà. Je suis musicien depuis au moins plus que la moitié de ma life.
Ouais.
J'ai 46 ans. Je suis musicien et travailleur social aussi depuis très longtemps. Voilà, pour moi, tout ça, c'est lié. Il y a un lien. Et si je devais me définir en un mot, puisqu'on en parlait à l'instant, je dirais entier. Voilà.
Ah, c'est bien, on adore ça, les gentils.
Ouais. Moi, donc, je m'appelle Olivier, j'ai 35 ans, donc je peux pas encore dire que je fais de la musique depuis plus de la moitié de ma vie, parce que j'ai commencé tard. Donc je suis batteur, je suis aussi agent immobilier, c'est assez improbable. Et moi, là, pour le coup, si je devais retenir un adjectif, je dirais passionné.
Ouais. Super. Alors Jérémy, tu dis que ton travail dans le social et la musique sont étroitement liés. Enfin, comment tu l'expliques, ça ?
Eh bien, je l'explique pas, en fait. Je l'explique toujours pas. C'est une grande question que je me pose régulièrement. Mais c'est un fait et c'est quelque chose que je constate. Le truc, c'est que... Bon, moi, je suis éduc, en fait. Hein. Je suis éduc depuis le début des années 2000.
Ouais.
Et tout au long de mon parcours, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux. Alors, tout diplôme confondu, hein, on s'en fout du diplôme, c'est un peu plus ce qu'on fait avec les gens qu'on accompagne.
Ouais.
Et ben, sont toujours, en fait, pas des musiciens, mais des passionnés, comme vient de dire Olivier.
Okay.
Parce que, bon, forcément, moi aussi, je suis quelqu'un de très passionné dans tout ce que je fais. Et voilà, donc j'ai pu croiser... beaucoup de musiciens passionnés comme moi, qui étaient aussi mes collègues de boulot. Mon prof de socio à l'époque était un méga passionné de musique, puisque c'est lui qui avait écrit le bouquin sur Flying. Enfin, voilà.
Ouais.
Tu vois, il y a vraiment un lien, en fait. Hein.
Mmh.
Et puis, parce que la musique, c'est pas que de la musique, c'est du partage et des voyages. Quoi, voilà.
Est-ce que pour toi, la passion, ça va aussi avec le fait d'être entier et authentique ?
Oui, je pense que tu peux pas réagir autrement, en fait. Quand t'es passionné, tu fais le truc avec les tripes, tu comptes pas tes heures, et tu regardes jamais ta montre, quoi, voilà.
Tout à fait. Alors, Jérémy, c'est donc le grand retour sur quelques dates des Flying Donuts, retour attendu par le public. Et qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous réactiver ?
Olivier Brédard, qui est à ma gauche.
on l'embrasse, hein, on est content.
Voilà. Alors, le truc, vraiment, je vais synthétiser. Flying, c'est 96-2016, voilà, 20 ans. On s'est arrêté en 2016 un peu par la force des choses, parce que mon frangin avait envie de voguer vers d'autres horizons, voilà. Et puis, Manu et moi, on a jamais vraiment arrêté. On a eu des propositions, des envies. Donc, on faisait quelques gigs privés, quoi. On faisait des shows un peu acoustiques. On reprenait des morceaux de Flame qu'on réarrangeait en folk pour jouer dans les jardins des copains, quoi. Et puis, dans ce cadre-là, Olivier nous a proposé de faire leur première partie pour leur release de leur disque. Mmh. Et puis l'idée elle a mûri comme ça, on s'est dit ouais, mais en fait ce serait cool de ressortir les arbalètes électriques, quoi. Et du coup ça s'est fait comme ça, et puis Olivier a eu envie, nous aussi, et puis on s'est dit let's go. Bon, sacré projet, hein, parce que là, là on dépoussière pas mal de vieux morceaux. On a tenu, Manu et moi, à laisser aussi quand même carte blanche, entre guillemets, pas tout à fait, parce qu'il fallait quand même qu'on choisisse aussi un peu les morceaux. Mais on a dit à Olivier, écoute, avant tout, c'est le fun. Et puis, choisis les morceaux, quoi.
Ouais, voilà. Génial, quel honneur.
Ouais, c'est clair.
Il me semble que pour toi, les Flying, ça représente beaucoup.
Ouais,
explique
carrément.
Explique-nous ça.
Pour la faire courte aussi, moi, j'ai vraiment grandi avec eux, en fait.
Hein, on a une heure, les gars. Faites pas trop courte.
Okay. Non, en fait, c'est... C'est mon frère, hein, qui m'a fait découvrir ça, parce que mon frère, c'est lui qui m'a fait mon apprentissage musical. Hein. Mmh. Et on est arrivé à Épinal en 2002, je crois. Mon frère a dû arriver en 2003. Il a découvert un jour les Flying. Il m'a emmené, je crois que c'était au chalet la première fois. On en parlait l'autre jour, un petit bar qui n'existe plus aujourd'hui.
Oui, où mon frère organisait beaucoup de concerts, voilà, à l'époque. Ouais.
Et moi, ça a été une claque, quoi. J'avais 13 ans et je connaissais... Je connaissais pas grand chose, en fait, et j'arrivais pas à me dire que ce groupe-là venait d'Épinal et que j'étais en phase 2. Et Mimi, il le sait, il aime pas que je dise ça, mais c'est mon guitare héros, quoi. C'est mon idole d'enfance. C'est mon idole d'enfance. Et en fait, ouais, donc l'an dernier, à la fête de la musique au Cave de Fontenay, on avait joué avec Obsession. Et je savais que Jérémy et Manu devaient jouer en acoustique après. Et moi, j'étais venu avec mon bouquin, mes CD, pour les faire dédicacer. J'avais la boule au ventre avant de lui parler, parce que je l'avais déjà croisé plusieurs fois, mais je ne lui avais jamais, jamais parlé.
C'est vrai que t'es un peu impressionnant, Jérémy, quand même.
Oh, arrêtez vos conneries.
Et puis suite à ça, en fait, Jérémy m'avait filé son 45 tours de son projet solo. Et puis depuis là, en fait, on est resté en contact. Mimi n'était pas dans une grande forme, hein, à l'époque. Ça allait pas trop trop bien.
Non, moi j'ai traversé un peu le désert là pendant quelques années. J'ai des gros soucis de santé.
Ouais.
Ça a remis un peu beaucoup de choses à plat dans ma life, tu vois. Et c'est, moi je suis doublement content aussi de pouvoir rejouer aujourd'hui avec Olivier, c'est cool. De jouer des vieux morceaux de Flying, c'est cool aussi. Bon, j'ai d'autres activités musicales. En fait, le truc c'est que en 2000, ça y est, je me rappelle plus. Je crois que c'est 2023. Ouais, c'est ça. J'ai fait un truc que j'avais jamais fait, tu vois, en 20 ans de Zik, j'ai fait un projet solo. Ça me tenait à cœur, en fait, depuis des années. Et j'ai fait un 45, je l'ai pas mal, j'ai pas mal bossé dessus. Et c'est ce qui m'a donné, en fait, c'est ce qui a ravivé la flamme, on va dire, tu vois. Voilà. Mais par rapport à ce que dit Olivier, je vais te donner quand même mes impressions. Effectivement, je suis toujours un peu gêné parce que. Je me suis jamais trop rendu compte à l'époque, tu vois, de l'importance, entre
guillemets. L'impact que tu as eu sur les gens.
Ouais,
l'engouement,
voilà. Tu vois, je pense que Flying, ça a fonctionné pendant 20 ans parce que les rôles étaient, on en parlait là, juste avant l'émission, et les rôles étaient extrêmement bien définis, tu vois. Il y en avait un qui faisait toute la com, c'était mon frangin, le batteur, hein, Benjamin. Mm-hmm. Manu qui s'occupait toute la logistique, et puis moi qui proposais, on va dire, l'artistique, et puis c'était démocratique, hein, on en parle entre nous et tout ça. Mm-hmm. Mais quand les rôles sont bien définis, tu vois, ça fonctionne, quoi.
Ouais.
Et moi, c'est vrai que je ne me rendais absolument pas compte de la petite notoriété à l'échelon national à un moment donné, tu vois. Voilà, moi j'étais dans un cycle où on répète, on compose des morceaux, on les enregistre dans un studio, sur un album, et on monte dans un camion, et on recommence,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Et quand t'as fait ça pendant, pas 20 ans, hein, parce qu'on a commencé comme tout le monde au début, allez, on va dire pendant 12, 13 ans, tu vois, à Donf, et ben t'as un rythme de vie qui fait que t'es plus trop dans la réalité, quoi. Et
ouais,
quand tout s'arrête, ça fait chelou, tu vois, ça fait vraiment chelou.
Ouais.
Voilà.
Ça te procure quoi, toi, comme sensation, Olivier, du coup, de pouvoir jouer avec les Flying?
Moi, c'est clairement un rêve d'enfant, hein, franchement. Mmh. Des fois, la première répétition qu'on a fait, je réalisais pas très bien. Hein, j'étais,
ouais.
Quand ils m'ont fait la bille, je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû leur serrer la main, tu vois,
ouais,
m'agenouiller, me prosterner.
Ah, non,
j'ai même pas fait, mais. Non, moi, c'est incroyable. Mmh. C'est vraiment.
Ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, Manu, il est pas là,
oui.
Manu, le bassiste. Hein,
on l'embrasse.
Il revient des États-Unis, là où il était pour son boulot.
Mm-hmm.
Et du coup, voilà, quand j'ai proposé ça à Manu, il était à Donf aussi, quoi. Et je sais pas, en fait, Manu, il m'a jamais posé la question, mais comment il joue Olivier? Est-ce que ça allait le faire musicalement? On savait que ça allait le faire, tu vois. Avant même que, parce que bon, t'avais déjà eu avec Obsession, c'est sûr, mais parce qu'on savait que t'étais un mec. Passionné comme nous, et puis ça, j'en démords pas. Hein. Il faut vraiment bien s'entendre. Avant tout, faut être pote.
Ouais.
Sinon, ça marchera jamais.
Ouais,
quoi,
c'est vrai, ça.
Et c'est cool, hein, parce que voilà. Après, l'idée, c'est pas de remplacer mon frangin et de faire exactement tout ce qu'il fait, c'est de le faire à sa sauce, quoi. Voilà.
Ouais. Mais ça doit pas être évident, en fait, de reprendre la partie de quelqu'un d'autre.
Ouais, non, c'est clair. Surtout que ma main, c'est une belle pointure aussi, hein, dans son registre.
Ouais.
Mais oui, au début, j'avais pas mal cette pression. Et puis justement, à un moment, Jérémy m'a dit, t'inquiète, de toute façon, ce sera pas, voilà, c'est à ta sauce, comme il dit. Ouais.
Ouais. Les Flying, ça débute en 96 officiellement. Vous deviendrez une référence incontournable du punk rock sur la scène indépendante française. Hein, c'est factuel, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe avant? À quel moment vous êtes tombé dans la grande marmite de la musique?
Alors, tu sais, on dit toujours que les chiens font pas des chats. Mon frère et moi, on est nés dans une famille de musiciens. On a toujours grandi là-dedans, tu vois. Je pense mes parents, avant que j'arrive au monde, là, ça devait être des gros hippies dans les années 70 qui vivaient tous en communauté. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on a toujours vu des musiciens passer. Mon père, il y a toujours eu des locaux de répète dans les maisons successives. Mes parents ont déménagé plusieurs fois. Donc, on a grandi vraiment là-dedans, tu vois. Voilà. Et puis, en 94 ou 15, mes premières expériences musicales, c'est avec mon pote, je vois son disque derrière toi là, avec mon pote Julien Bouchard, voilà, que je salue.
On embrasse.
Premier groupe, première expérience musicale, c'est Julien à guitare, moi à la basse et Laurent, à qui je joue maintenant dans Dale, à la batterie. Et tu sais, nous on a vraiment pris la mouvance grunge, on va dire, entre guillemets, hein, en plein dans les dents. Nous, on a connu ça, on était au collège, tu vois. Donc, Nirvana, Nevermind sort, on est tous des ados, quoi, tu vois. Donc, c'est notre génération, quoi. Et c'est ça, en fait, moi, ce qui m'a donné envie de faire du rock, en fait, c'est ça, tu vois. Puis après, bon, voilà, on s'est séparés parce que chacun avait d'autres priorités à l'époque. Et puis, les envies musicales n'étaient plus les mêmes. Et moi, tout de suite, c'était un mal pour un bien, parce que j'ai eu envie de rebondir. Moi, j'avais vraiment envie de faire du punk rock, en fait.
Ouais.
Voilà. J'étais à Donf dans le punk rock, mais le punk rock, Bon Spirit, quoi, tu vois. Et j'ai embarqué mon frère là-dedans, qui, lui, à l'époque, avait, je crois, 13 ou 14 ans. Les premiers concerts de Flying, il avait 14 ans,
Arrête,
je crois. Il n'avait pas trop le droit d'aller dans les bars, mais c'était notre père qui nous emmenait au concert, mon frère. Et puis Manu, pote d'enfance. Manu, il a doublement bossé, parce que, en fait, au début, Manu n'était pas musicien. Manu, c'était juste un pote qui adorait la zik, et qui venait nous voir en répète, les mains dans les poches, tout content de venir écouter de la musique avec des boules caisses, quoi. Et puis il a eu envie de faire de la zik. J'ai dit, écoute, tiens, prends la basse, je vais prendre la guitare. Et c'est moi qui lui ai appris à jouer, mais je salue quand même ça, parce que il a mis les bouchées triples, quoi, parce que il a vraiment bossé, tu vois, pour rattraper le niveau qu'on avait, enfin, le niveau entre guillemets, hein, moi je savais faire 3 barrés, quoi, qu'on avait déjà à l'époque avec mon frangin. Et puis voilà. Et puis après, tu sais, c'est un enchaînement, c'est aussi une époque, une génération. On en parlait tout à l'heure, je crois que maintenant il y a à l'ère de la méga communication, c'est le paradoxe. Il y en a moins, finalement, puis il y a moins d'aide, il y a moins de.
Ouais.
Tu sais, nous, on est passé, on s'en cache pas, hein, on l'a toujours dit, hein, qu'on est passé par des dossiers de subvention. À l'époque, le conseil général, départemental aujourd'hui, pouvait donner des subventions sur un projet qui tenait la route, quoi. Et on a fait en sorte de monter un truc pour que ça tienne la route, quoi. Mmh. Et merci quand même, parce que tu vois, ces premières enveloppes-là, ça nous permet d'acheter un camion, ça nous permet de partir en tournée, de décrocher des grosses dates, les Eurocaines, les machins. Voilà. Ouais. Puis après, la sauce, elle prend, puis c'est parti, quoi.
C'est énorme. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Justement, tu nous parlais de Nirvana. On va se lancer dans mon premier disque chouchou, playlist spécialement concoctée par vous, les garçons. Vous avez choisi le titre Drain You. J'espère que je le prononce bien. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Nirvana, quel groupe incroyable. Pourquoi vous avez choisi ce titre ?
C'est moi qui l'ai choisi, en fait. Ouais. Parce que quand Olivier m'a dit « prépare 2-3 morceaux pour l'émission de radio », en fait, je me suis dit... on a 10 ans d'écart, en fait, tous les deux.
Ouais.
Et je me suis dit, ce qui serait cool, c'est de faire le lien entre sa génération et la mienne, mm-hmm. même si c'est quasiment la même, on va dire. Eh ben, moi, j'ai choisi Nirvana parce que, comme je te disais, moi, je me suis pris ça en pleine poire quand j'étais ado, quoi. Mmh. Et puis, le lien, il est là parce que le morceau de sa génération, moi, je l'ai choisi aussi. Mais, c'est la même personne à la batterie et c'est Queen of the Stone Age. Voilà.
Ah, ok, d'accord. C'est important ce lien de génération à génération. Toi, t'as une envie de transmission comme ça, un petit peu, d'éthique, de passion, des belles années de la musique.
Ouais, moi je trouve ça vraiment cool de suivre un petit peu ce qui se passe, tu vois. Moi j'aime bien gratter, hein, tu vois. J'aime bien les disquaires, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore toujours des très bons aux quatre coins de la France. Mais j'aime bien gratter, j'aime bien fouiller, j'aime bien aussi me renseigner sur ce que j'ai pas connu, tu vois, les années 80, 70. Alors là, c'est plus le discours des gens de ma famille, de mon père, tu vois, mais je pense qu'avoir 15 ans en 74, ça devait être cool aussi. Hein.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et toi, la musique, comment c'est né ?
Moi, j'étais pas dans une famille de musiciens comme Mimi, quoi, mais moi, c'est venu très tôt, en fait. J'ai commencé par la guitare, j'avais 7 ans. Mm-hmm. École de musique à l'époque, tout ça, enfin, j'ai joué jusqu'à l'âge de 12 ans. Comme un malade. Et puis quand mon père est décédé, donc quand j'avais 12 ans, j'ai complètement mis de côté la guitare. Je voulais plus, j'arrivais plus, en fait. De toute façon, j'y arrivais plus. Et à l'époque, mon frère, il avait monté son premier groupe d'ado. Les répétitions se faisaient dans le grenier et son meilleur ami avait laissé la batterie chez nous. Donc voilà, moi j'étais super content quand je sortais du collège de pouvoir aller taper un petit peu, de me défouler.
C'est clair.
Et puis en fait c'est resté. Et puis je me suis mis vraiment en autodidacte, quoi, sur la batterie. Ouais. C'était devenu un exutoire, en fait. C'était voilà. Et par contre mon premier groupe c'est venu tard. Hein. J'avais une vingtaine d'années, quoi.
Ouais.
Mais c'était ma première vraie expérience avec Mathieu Battu dans Major Cooper. J'ai vécu des belles années avec lui et ouais. Maintenant la musique elle prend une place très importante dans ma vie, c'est clair. Ouais, ouais. Et là ce que tu demandais à Jérémy par rapport à la transmission, ouais. Tout ça, moi, je le ressens vraiment comme ça, quoi. Parce qu'il y a des trucs que je connais, qu'on connaît tous les deux, mais lui, il me fait découvrir des trucs de sa génération.
Toi aussi, tu me fais découvrir des trucs.
C'est ce que j'allais dire.
Toi aussi, carrément. Parce que, si tu veux, le truc, c'est que moi, j'ai un peu lâché, tu vois, l'actu, machin. Enfin, tout va trop vite aujourd'hui,
tu vois.
Et puis, sélectionner vraiment des bons groupes, tu vois. Il y en a plein aujourd'hui. Parce que je pense que l'accès à l'apprentissage de la musique... Je parle pas de communication là, mais l'apprentissage à la musique, il est plus facile aujourd'hui. Tu vois.
Ouais.
Mais moi, je peux peut-être rebondir sur ce que tu disais. Moi, il y a un truc qui me touche énormément, c'est que quand Olivier, il me disait à l'époque, on s'est dit allez, on joue ensemble. C'est vous les Flames qui m'avez donné envie de jouer de la zik. Mmh. Forcément que ça me touche et que ça me fait plaisir, mais je me prends aussi une énorme claque dans la gueule parce que moi, je me revois. Non, mais tu vois, je me revois dire ça. Alors beaucoup plus jeune à l'époque, hein. Je me revois dire ça à 16-17 ans au Bernie Gates, qui pour moi sont la référence ultime, c'est punk rock vétéran, tu vois. Je me vois leur redire ça à la halle de chasse à Épinal, tu vois, genre à l'époque où Rick Lesson organisait des concerts. Et je me souviens encore, c'est pour l'album Super Modern World, voilà. Et j'ai l'occasion de tchatcher deux secondes après leur concert et de leur dire les gars, mais c'est trop cool parce que je discute avec vous, mais sans faire de la lèche, hein, tu vois, parce que c'est vous qui m'avez donné envie de faire du punk rock,
c'est
quoi.
Génial.
Et 4 ans plus tard, on se retrouve avec aux Hurricanes, tu vois.
Incroyable.
Ça, c'est ouf. Mmh. Ouais. Et en fait, c'est comme ce qu'il dit, en fait, Olivier, c'est ça, c'est de la transmission. La musique, c'est de la transmission. Mmh.
Ouais. Est-ce que tu l'emmèneras aux Hurricanes?
Bon, tu sais, hein, c'est plus vraiment très rock'n'roll, la prog des Hurricanes.
On s'en fout, on s'en fout. Petite rétrospective, première démo, premier album, des splits, des titres semés comme des cadeaux sur des compiles, des disques taillés dans le vif aux influences assumées, des tournées partout, en France, ailleurs, des kilomètres avalés par centaines de milliers, des riffs envoyés sans compter. Et là, 20 ans plus tard, rideau, c'est la fin de l'aventure pour les Flying. Tu nous as expliqué un petit peu pourquoi, mais comment ça se passe dans vos têtes à ce moment-là? Ça doit être...
grosse violence. Non, mais enfin grosse violence. Si, alors le truc chez nous, on avait une règle depuis le début. Depuis le début qu'on s'est mis à tourner. Hein,
ouais.
On s'était dit le premier qui commence à calancher, tu vois, à souffler un peu, d'en monter dans le camion. On arrête, quoi.
Mmh.
Et là, en l'occurrence, mon frère commençait à souffler un peu.
Ouais.
Et voilà. C'est vrai que... On en parlait encore dans la voiture là, avant de venir. Les concessions que ça impose, ouais. Une vie de troubadour. Tu ouais, vois ce que je veux ouais. dire à un moment donné... ouais, à un moment donné, tu choisis... si t'es vraiment passionné et que tu veux aller au bout des choses, eh ben tu choisis la guitare en l'occurrence pour moi, mm-hmm. À tout le reste quoi.
Ouais.
Donc moi les grandes années flying, la vie perso j'en avais pas,
ouais.
j'en avais plus, tu mm-hmm. vois. Et après les années passent, tu vois, on prend tous de l'âge. Mon frère c'est le premier qui a eu des gamins,
mm-hmm.
tu vois. Et qui s'est marié aussi. Et à un moment donné, je pense que il a dû faire des choix qui sont entendables. Hein. Attention, ouais, je critique pas les choix qu'il a fait. Hein. Mais c'est juste que aujourd'hui, avec le recul, je comprends beaucoup plus
ouais.
qu'il y a 10 ans. Mmh. Tu vois, il y a 10 ans, mon frère nous dit les gars, j'arrête. Pour savoir que mon frangin, on se ressemble un peu quand même sur pas mal de choses, mais lui, il est aussi très entier et c'est tout ou rien, tu vois.
Mmh.
C'est soit il fait à 2000%, soit il fait pas.
Ouais.
Et quand il s'est aperçu que flying, là, il serait obligé de lever un peu le pied, bah, il s'est dit je préfère arrêter quoi.
Ouais.
Voilà. Mais après, mon frère, il a rebondi. Hein. Je dire, musicalement, il fait toujours des choses, mais il fait beaucoup de remplacements pour les copains à droite à gauche. Voilà. Je crois qu'il veut plus s'investir dans un groupe qui a envie de faire 50-60 dates par an. Quoi.
Mmh. Ouais. Est-ce que ça a été un petit moment de deuil quand même?
Ouais, ouais, carrément. Ouais. Manu, j'ai mal vécu.
Ouais.
Je sais pas si on peut dire mal vécu, mais ouais, Manu, ça a été dur aussi pour lui. Mais c'était dur pour moi aussi. Hein, il faut pas croire. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est tout un rythme de vie. C'est un quotidien en fait.
Bah ouais.
C'est un quotidien qui anéantit d'un coup, tu vois. En fait, le dernier concert qu'on a fait, moi je savais pas que c'était le dernier sur scène, tu vois. Et c'est ce souvenir-là que je garde.
Ah ouais.
Parce que le dernier, c'était celui des 20 ans qu'on a fait, les 20 ans à la Souris Verte, on en parlait aussi hier. On avait fait deux soirées sold out, là c'était vraiment cool.
Ouais.
On avait fait venir des gros de notre label, tu vois. On avait fait venir Baby Chaos, un groupe qu'on adorait dans les années 90, puis les Shérifs, voilà.
Ouais. Oui.
Parce que le punk rock en français, on aime encore bien. Et du coup, enfin quand c'est fun, tu vois. Et du coup, c'était deux soirées très réussies, c'était super cool. Mais en fait, c'était le dernier concert et on le savait pas, parce que en fait, mon frangin avait déjà, il se posait des questions, je pense. Il nous le disait pas, tu vois, mais il intériorisait le truc, il se posait des questions. Et la répète de la semaine d'après, il nous dit les mecs, je crois que je vais arrêter, quoi.
Oh, dur.
Et du coup, on avait toujours entre 10 et 15 concerts de Calais, toujours à l'avance. On avait un tourneur à l'époque
Ouais.
Et puis moi, j'ai dit, bah, écoute, si ta décision est prise, moi, je préfère arrêter tout de suite parce que j'arriverai pas à faire semblant, en fait. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été très cool pour les organisateurs des 10 dates qu'il y avait de Calais.
Ouais.
Ça, je l'entends. Mais moi je pouvais pas.
Ouais, c'est ton côté entier, ça.
Ouais, sur le côté un peu... ouais, j'ai peut-être pris le truc avec un peu trop d'émotion à l'époque. Hein. Je veux bien accorder, mais j'aurais pas réussi à faire des sets corrects, tu vois.
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'un peu la boucle est bouclée, en fait, parce que là, votre retour, ben, c'est à la Souris Verte le 11 octobre. Du coup, qu'est-ce que ça fait de revenir sur la scène que tu as quittée avec le groupe?
C'est rigolo, oui, c'est rigolo de recommencer par là, quoi. Après, est-ce que ça va être sur la même scène ou est-ce que ça va être dans la petite salle? Je sais pas. Moi, de toute façon, soit la petite ou la grande, je serais content de le faire. Ça va être cool. C'est juste que, oui, les conditions ne seront pas les mêmes. Après, c'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont choisir.
Ouais.
Après, je suis aussi tout à fait conscient d'une chose, c'est que pour des gens passionnés comme nous, on se rend pas forcément compte. On est à fond, la musique, c'est cool, on n'a jamais quitté le truc. Mais tous les gens, les followers, comme on dit aujourd'hui, là, qui nous suivaient, qui nous kiffaient il y a 10 ans, je ne sais même pas s'ils seront là, en fait, tu vois. Je pense qu'il y en a une partie qui seront là quand même, les locaux, les copains. Mais C'est ça, en fait, qui est très étrange. Pour ce concert-là, il y a des mecs qui m'ont envoyé des messages qui vont venir. Par exemple, je sais qu'il y a des copains qui viennent de Limoges, exprès, des copains qui viennent de Clermont, tu vois. Voilà. Donc, il va y avoir des méga passionnés, je pense, qui seront là. Mm-hmm. Mais est-ce que les locaux qui nous suivaient il y a 10 ans seront là? Je ne sais pas.
Eh ben, on verra bien.
On verra bien.
Mm-hmm. On sera là le 11 octobre pour voir tout ça. On vous retrouvera ensuite à Strasbourg, à la Maison Bleue, c'est ça?
Ouais.
Ouais. Ça, c'est quand, ça?
Le 5 décembre.
Le 5 décembre, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Olivier, tu seras donc derrière les fûts sur ces deux dates. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y en aura d'autres ensuite, des dates?
On se la pose aussi. Hein. Non, alors le truc, c'est que comme je le disais aussi avant l'émission, mon frangin, ce que je tiens à dire aussi, ce que je n'avais pas dit, je fais le lien avec ça, c'est que quand on a décidé de remonter Flying, avec Olivier et Manu, on a discuté, et moi, j'ai imposé, entre guillemets, quelques conditions. Ouais. Donc, la première, déjà, c'était que de prévenir mon frangin et d'avoir son aval.
Ben oui, oui, voilà. Bien sûr.
Même si c'est lui qui a quitté le navire il y a 10 ans, voilà, bon, chose faite, pas de souci, il est content que ça se fasse. Il est même prêt à montrer des plans à Olivier s'il
c'est
faut.
C'est rigolo.
Bon, voilà, non, mais voilà, c'est vraiment, ça se fait de
partage
sereinement, voilà. Après, moi, je voulais pas utiliser Flying Donuts. Ça me dérangeait un peu parce que donc c'est pour ça qu'on a rajouté Reactivated.
Ok,
tu vois.
Pardon.
Voilà. Okay. Mais non, mais c'est pareil. C'est juste on l'a rajouté, tu vois. C'est pour le clin d'œil.
C'est moi, c'est mon anglais, tu vois. Et je
puis,
préfère.
Non, mais voilà. Et puis après, le truc, c'est que ces deux concerts-là, ça demande déjà pas mal d'orga en termes de, bah déjà de morceaux à bosser, hein, parce que Olivier, je pense qu'il a la tête qui fume en ce moment entre Obsession, nous et ses autres projets.
Pas que la tête,
en cours.
Je pense.
Voilà, quoi.
Les bras aussi.
Ouais, et du coup, on verra par la suite. On a des demandes, mais on va voir comment. Oui, on a tous envie, je pense qu'on va pas se mentir, on a tous envie. Je parle même pour Manu, là, qui est dans un avion en Storcy. Lui aussi, là. Mais on va voir en termes d'organisation comment on peut s'organiser. Ce qui m'étonnerait fort, c'est que ça parte en tournée 10 dates, comme dans le temps, tu vois, d'affilée. Mais quelques dates éparses sur des week-ends, ouais, je pense que ça peut le faire.
Ça serait énorme. En tout cas, on suit ça de près. On se lance dans le deuxième disque chouchou avec l'un des titres des Flying, du coup, Going Forward, j'espère que je le prononce bien, de l'album Still Active, sorti en 2014, c'est ça?
Ouais, alors ouais. C'est le dernier album long format.
Ok, voilà. On écoute ça et on se retrouve juste après.
Choices, job done, the odds.
Voilà pour ce titre des Flying Donuts. Est-ce que tu peux un petit peu nous mettre dans le contexte de ce titre ? Quelle est son histoire ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ?
Alors j'ai choisi ce morceau-là. En fait, quand Olivier m'a dit il faut choisir des morceaux, je lui ai dit bon, on va quand même mettre un morceau de Flying pour faire un peu de promo. C'est le but pour le concert.
Ouais, et puis on est content de vous écouter.
Même si, je pense que tu es d'accord avec moi, Olivier. La base du musicien, c'est qu'il s'écoute jamais en fait. Hein. Il écoute jamais ses propres
disques. Ouais, ça dépend.
Ça dépend. Ouais. Alors Going Forward, ce morceau-là, déjà c'est le dernier album. C'était le single entre guillemets du dernier album. On avait fait un clip là sur ce morceau-là qu'on peut regarder là sur YouTube. Il est toujours. Et Going Forward, parce que à l'époque l'album il s'appelait Still Active. Ce morceau-là s'appelle Going Forward, aller de l'avant, et ça c'est un peu dans le même esprit, tu vois, que le titre de l'album. C'est parce que à l'époque, en fait, je me souviens que on était un petit peu étonné de quelques rumeurs, tu sais, ça tchatche beaucoup hein, dans le monde merveilleux du music business, quoi. Où on entendait des trucs, genre les Flying, ils vont splitter, machin. Alors que pas du tout, on était à Donf à l'époque. On avait beaucoup tourné pour l'album d'avant. Et c'est vrai qu'on a mis un peu le temps. Entre 2009 et 2013, on n'avait pas enregistré, mais on a tourné comme des porcs, en fait. Tu vois, dans les pays de l'Est, partout. Ouais. Et Still Active, toujours actif. Et puis Going Forward, aller de l'avant, ça colle bien avec la formation. Voilà.
C'est quoi le souvenir le plus impactant qui te reste ? Tu me parles de tourner là à l'étranger, par exemple. Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a une scène où tu te dis waouh, ça c'était incroyable.
Alors ça, c'est une question qu'on nous a déjà posée quand... on nous l'a posée, tu sais, quand je te le disais tout à l'heure que mon ancien prof de socio, il a écrit un bouquin sur nous.
Oui, j'allais y venir.
Il nous l'a posée, cette question-là, en fait, parce que c'est un peu le jeu des questions-réponses hein, dans le bouquin. C'est pas une biographie, tu vois, de base, un peu chiante à lire. Puis déjà, c'est, à la base, c'était voué c'était destiné à être lu par des étudiants, tu vois. Lui, ce qu'il a voulu démontrer, c'est pas tout ce que Flying Donuts a fait, pas du tout. C'était qu'est-ce que c'est que le do-it-yourself, qu'est-ce que c'est que le fais-le-toi-même, en fait. Voilà. Nous, on est l'exemple juste de ce modèle-là dans ce bouquin. Et donc, il nous avait posé cette question-là. Et en fait, on a tous les trois répondu des choses différentes. C'est ça qui est marrant, tu vois.
Ouais.
Parce que, en fait, on a nos propres sensibilités, tu vois.
Bien sûr.
Je me souviens que mon frère, il avait répondu. La tournée au Canada, Québec, parce que c'est le plus loin qu'on est allé, tu vois. Manu avait dû dire les Eurocaines parce que ça reste quand même un des plus gros concerts qu'on ait fait à l'époque. Et puis moi, rien à voir. Moi, la première tournée dans les pays de l'Est.
Ouais.
Voilà. Parce que la découverte d'une autre culture, vraiment. Et puis, moi, j'ai halluciné comment les gens faisaient beaucoup avec très peu de moyens, en fait. Ça m'a vraiment marqué, quoi.
Voilà. Est-ce qu'il y a une rencontre déterminante dans le parcours des Flying ?
Il y en a plein. Je peux te les dire par ordre chronologique. Alors au tout début, je pense qu'il y a Daniel Gérardin. Lui, c'était le rédacteur en chef du fanzine Kérosène.
Ah ouais.
Voilà, qui a fait beaucoup pour la scène indé française. Ouais. Voilà, et pour nous aussi parce qu'il nous a bien mis des coups de pied au cul.
Ça fait du bien des fois.
Ouais, il y a non mais il nous a permis de faire des premières parties cool, tu vois, à l'époque, Après il y a eu Eric Clesson, hein, qu'on ne présente plus, quoi.
Bah ouais.
Rock Epine, voilà, il a cru en nous, Eric, dès le début.
Okay.
Les Eurocaines, c'est grâce à lui, clairement, tu vois. Ensuite, il y en a eu plein. Hein. Il y a eu les tourneurs successifs qu'on a eus, les petits labels qui nous sortaient des. Parce qu'on a fait beaucoup de split CD aussi et vinyle. Après, en termes de musiciens, en termes de groupes, je pourrais t'en citer plein. Parce qu'il y avait toute une ribambelle de potes avec qui on avait l'habitude de tourner. Mais je vais juste en dire deux. Je pense au Second Rate, groupe de Besançon, qui vient de se reformer aussi, tu vois. C'est
génial.
Quand même complètement ouf.
Ouais.
Second Rate, on a fait plein de belles choses ensemble. C'était vraiment très cool. On a partagé plein de scènes. Et puis le deuxième, c'est les Joysticks, le groupe hongrois qui nous a permis de voyager dans les pays de l'Est avec eux, avec qui on a fait un split. Voilà. Et pour finir, peut-être Stéphane Cupillard, qui est le boss du label Kicking Records, qui en fait nous a signé en 2008, je crois, 2009.
Okay.
Et à partir de là, la vie a changé. Tourneur, label, enfin voilà.
Ouais,
là,
ouais.
Tu montes d'une marche, quoi.
Ouais. Et qu'est-ce que ça fait la tête? C'est un moment où tu prends le melon ou on arrive à rester quand même dans la réalité des choses?
Ouais, non,
ça,
non, nous on n'a jamais pris le melon parce que déjà c'est pas du tout nos personnalités. Et puis surtout parce que tu vois, nous on a beaucoup tourné et on pouvait très bien sur une même tournée faire un gros festoche 3 000-4 000 personnes et le lendemain un bar 40 personnes.
Ouais.
Donc là le melon tu peux pas le choper dans ces conditions. Voilà. Non mais voilà.
L'humilité.
Ouais, mais c'est l'humilité, elle est aussi un peu choisie évidemment, mais un peu forcée parfois, tu vois, parce que do it yourself, si on veut parler un peu vulgairement, moi je le traduis en sortant les doigts, tu vois. Et quand tu conduis 800 km et que tu dois assurer un concert le soir, si tu décharges un distro alors que tu as déjà le dos défoncé,
ouais,
bah voilà, tu vois, genre le melon, tu peux pas le choper dans ces conditions.
Oui, il y a quand même l'envers du décor, quoi. Jérémy, on disait que les Flying Donuts ne s'embarrassaient ni de principe ni de manière, que vous respiriez le rock, le transpirez même, vous l'exultiez. Le rock était une nécessité pour vous, un besoin maladif, compulsif, une thérapie, un exutoire. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est quelque chose de tellement viscéral que finalement ça vit toujours en soi?
Ouais, je pense que c'est toujours le cas, oui. Tu sais, Olivier, je l'ai un peu briefé, mais je n'ai même pas besoin de le dire, il le sait. Flying, l'idée, c'était, on fait un concert dans un petit bar devant 10 personnes, ce que je te disais, hein, où on fait un gros festoche, ce sera le même concert,
ouais,
et le t-shirt sera mouillé pareil à la fin, tu vois. Et ça, on voulait garder cet esprit-là jusqu'au bout, et je pense qu'on va continuer comme ça avec Olivier, quoi, tu vois. Mais oui, c'est tout ce que tu dis. En fait, tout ce que tu viens de citer, là, c'était dans la dernière biographie, je crois. Et c'est assez juste.
Ouais,
c'est un exutoire, c'est une thérapie aussi, parce que ça permet d'aller mieux, peut-être, mais d'aller bien surtout. Hein.
Est-ce que vous vivez toujours la musique de la même façon? Est-ce que les messages de l'époque, eh ben, vous les partagez toujours de la même façon? Parce que des fois, on écrit des chansons, on vit la musique, et puis il y a un mouvement, les temps changent, l'évolution de la vie, et puis on n'est plus forcément en raccord avec tout ça. Est-ce que...
Je pense quand même, tu vois, qu'on... En fait, on a joué pendant 20 ans du punk rock, tu vois. Et le punk rock, c'est quand même avant tout un état d'esprit, tu vois. C'est vrai, je te vois sourire parce que le punk rock, c'est très large, en fait.
Oui.
Punk rock, ok, on peut parler des Berruriers Noirs, on peut parler de Bad Religion, tu vois. Et pour moi, là, il y a un continent entre, tu vois. Et bon, moi, j'appartiens plus à la mouvance... Bad Religion, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un méga modèle parce que c'est ce que j'appelle le punk rock pas bas du front, tu vois. Et non, mais je veux dire, le lien commun entre ces deux groupes-là, je fais exprès de prendre deux extrêmes, tu vois. Le lien commun, c'est qu'il y a une révolte, en fait.
Ouais.
Tu vois, il y a une révolte, il y a des choses à dire. Alors, on n'est pas non plus Rage Against the Machine, hein, tu vois, on n'est pas méga engagé, tu vois, on n'est pas en mode extrême gauche, avec des drapeaux. Mais si tu joues du punk rock, c'est qu'à la base, t'as des choses à dire.
Ouais.
Tu vois. Voilà.
Tout à fait. Alors justement, ben, les temps changent. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même un petit peu différent. Tu nous en parles quand même depuis tout à l'heure. Comment est-ce que tu vois l'évolution, toi, de la scène punk indépendante en France aujourd'hui? Et de la musique en général?
Alors, la façon de promouvoir sa musique ou les nouveaux musiciens, les nouveaux groupes?
Bah, le tout, mais les nouveaux musiciens, j'imagine.
Alors, moi, tu sais, j'essaye d'être quand même assez positif, tu vois. Je trouve quand même qu'il y a des putains de bons groupes, quoi.
Ouais.
Franchement, là, je me suis pris des claques sur cette année et l'année dernière. La nouvelle scène qui arrive, là, des alors pour le coup, là, vraiment les petits jeunes. Hein.
Ouais.
Là, on est sur du 20-25 ans. Là, ça envoie grave, quoi.
Ouais.
Je pourrais t'en citer quelques-uns, mais un qui m'a mis une grosse taloche, c'est Fragile. Ce groupe de...
Ah là là, incroyable.
Angers, je crois. Oui, en fait, j'y crois,
incroyable.
Mais non. Eh ben écoute, tu vois, ce concert-là, on s'est repris encore une grosse claque dans la gueule avec mon ami le Julien Bouchard, puisqu'on était à ce concert-là. Et puis, dans le lot, il y a le batteur, je crois. Son père, en fait, c'est le bassiste des Tugs.
Ah ouais, d'accord.
Et nous, avec Dortius, avec le Julien, quand on avait 14 ans, on a fait la première partie des Tugs,
d'accord,
tu vois. Donc, c'était cool de dire à ce mec-là, ouais, c'est cool ton groupe, on a joué avec ton père quand on était môme. Tu vois, non, voilà, c'est un exemple. Fragile, moi, ça m'a vraiment mis une tarte. Mais après, il y en a plein. Il y a Totoro, là, par exemple, qui sort un album de Matrock, là, qui est super classe. Non, il y a vraiment une super scène, quoi. Je trouve qu'il y a peut-être moins d'unité que dans le temps, tu vois. Mais par contre, la qualité est au rendez-vous. Mmh.
Voilà. Et sur la façon de faire un petit peu, on parle du dive, enfin sur la, voilà, la débrouille, un petit peu le système D. Ah. Qu'est-ce que tu en penses maintenant dans le milieu de la musique ? Ça a l'air un petit peu...
Alors, c'est un paradoxe. Ouais. Je trouve, moi, mon point de vue, et j'ai pas la source infuse, mais mon point de vue de ce que je vis, hein, de ce que je vois, c'est que c'est plus dur, en fait. Mmh. Tu vois ? Je trouve que c'est un paradoxe parce qu'encore une fois, à l'ère de la méga communication, tu vois, après le split de Flying, Eric, qui travaille encore à la Souris Verte, il nous a proposé avec Manu de faire une espèce de mini conférence, tu vois, genre pour expliquer un peu aux petites jeunes comment on fonctionnait. Ouais. Et c'est vrai, alors on l'a fait avec plaisir, hein. C'était cool d'expliquer à des gens passionnés comme nous que, ben, nous, ouais, on avait collé des timbres sur des enveloppes et mis des CDR et tout, mais là, on parlait chinois, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, ben, ouais, aujourd'hui, tu gères un peu un portable, tu te fais, je sais pas moi, un Facebook, un je sais pas quoi, mais malgré ça, ça suffit pas, en fait, tu vois. C'est quand même de plus en plus dur, mais c'est aussi plus dur parce qu'il y a de moins en moins de lieux, hein. Il faut.
Ouais. La culture en général,
la culture
moment,
en général, ça fait mal. Ouais. Une salle comme la Souris Verte, qui est une SMAC, voilà. Mmh. Il y en a partout en France. Nous, on les a toutes vues pousser. Ouais. Et en fait, quand t'es un groupe un peu entre deux comme ça, c'est dur parce que tu peux pas y avoir accès si t'as pas fait déjà plusieurs choses, quoi, tu vois. Mmh. Et en même temps, bah, des cafés-concerts, il y en a de moins en moins, quoi. Mmh. Donc, c'est un peu dur, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Olivier ?
Je suis totalement d'accord. Et puis moi, ce qui me frappe le plus, on en avait parlé avec Jérémy l'autre jour, tout ce qu'ils ont vécu, toutes les rencontres qu'ils ont fait à l'époque, l'entraide qu'il y avait entre les différents groupes qui venaient même pas du même endroit, qui se disaient bah tiens, tu nous fais jouer chez toi, on va te faire jouer chez nous, et puis bah tiens, on va faire une tournée avec vous, puis on part à tel endroit, etc. Ça, aujourd'hui, moi, je pense que ça n'existera plus. Enfin, je le vois très bien, c'est devenu un peu plus individualiste, en fait. Aujourd'hui, il y a un groupe, s'il côtoie un autre groupe, la première question qui va se poser, c'est de voir, de jauger un peu les niveaux, voir s'il est au-dessus ou en dessous.
La compétition.
Et du coup, il n'y aura pas ce partage de plans, il n'y aura pas ce partage de dates, de moments, de convivialité.
Ouais, en fait, ce que dit Olivier, il a raison, hein, c'est que tout est très égocentré aujourd'hui.
Ouais,
tu vois.
Ouais.
Alors, tu me diras, c'est là aussi, il y a un paradoxe. Tout à l'heure, il te parlait du bar Le Chalet, là, à Épinal, qui est à côté des caves de Fontenay, qui n'existe plus depuis 15-20 ans. Ouais. Mon frère organisait des concerts là-bas une fois par mois. Tous les groupes qu'il a fait jouer là-bas, ils dormaient soit chez moi, soit chez lui, tu vois.
Okay.
Donc voilà, il était en mode accueil. Mais on pourrait croire que c'est intéressé, mais non, en fait, c'était pas intéressé, c'était juste se créer un réseau. Et tous les groupes qu'on a fait jouer, on est tous devenus potes, tu vois. Et tous les groupes qu'on a fait jouer à Épinal dans ce petit bar tout petit, ils nous ont tous fait jouer derrière, tu vois.
Ouais, ouais.
Et je te donne un exemple concret. Mon frère s'est complètement fait dépasser, je m'en souviens très bien. Une fois, il a fait Guérilla Poubelle dans ce bar-là.
Ouais.
Mais il était tendu, j'ai jamais vu tendu. Mais parce que il y avait 150 personnes devant le bar qui pouvaient pas rentrer, qui râlaient, quoi. Tu vois, il s'est fait dépasser par l'événement,
tu vois.
Mais à l'époque, à la même époque, nous, je me souviens, une fois, on est tombé en rade de Camtar, il était en panne, et ben, le Til Garia nous a prêté son van pour faire la fin de la tournée,
énorme,
tu vois.
Ouais.
Zéro
ouais,
euro.
Ouais.
Prêt, quoi. Tu
vois.
Ça, aujourd'hui, c'est fini, je crois.
Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que la solidarité va revenir.
Ben, j'espère aussi. En tout cas, moi, dans mon boulot, je vois aussi, tu vois, que c'est de plus en plus dur. Hein.
Ouais.
Voilà.
Moi, j'ai un petit côté utopiste, comme ça. Cette émission passe à toute vitesse. J'ai posé 25% de mes questions, mais c'est pas grave. On se lance tout de suite dans le troisième disque chouchou, Go With The Flow, du groupe Queens of the Stone Age. T'es tellement fan, Olivier, que t'es carrément venu avec le t-shirt.
Et
on écoute ça.
Et le t-shirt, il était à Jérémy. Tu vois, on est toujours dans la transmission.
Ah, c'est beau.
I can't wash
On est dans les studios de Radio Guémozo, dans l'odeur du son avec Jérémy et Olivier. J'étais ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission. On rappelle quand même la date qui arrive le 11 octobre à la Souris Verte pour la release partie de Obsession qui sortent leur deuxième EP avec le grand honneur de recevoir sur cette scène les Flying Donuts. Est-ce que la billetterie est encore ouverte, Olivier?
Oui, vous pouvez y aller. Hein. Prends tout, les chèques, le cash. Non, c'est encore ouvert. C'est encore ouvert, bien sûr.
Yes. Il y a aussi une cagnotte de soutien pour le financement de cette sortie de deuxième EP, parce que ça coûte des sous, tout de même, faut le dire.
C'est clair.
Donc, ça se passe où?
Ça, c'est en ligne. Il y a un lien HelloAsso qui doit être sur l'événement Facebook, je crois. Hein. J'espère.
La page Facebook.
Sur la page Facebook, voilà.
Ok.
Donc, n'hésitez pas.
Ben voilà. Est-ce qu'il y a des projets à venir, Jérémy, Olivier? Ou est-ce qu'on se concentre finalement sur ce qui se passe dans l'instant T?
Oui, on va déjà se concentrer sur les deux dates à venir avec Flying.
Ouais.
Après, comme on disait, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont tomber en 2026. On va essayer de gérer ça comme on peut, quoi, en fonction des emplois du temps de chacun.
Ouais.
Moi, me concernant, je joue aussi dans Dale avec mes potes Julien et puis Laurent.
Okay.
On fait la première partie des Pookies le 31 octobre à la Souris Verte. Voilà, j'en profite, j'ai un peu de promo.
Ouais, carrément.
Et puis voilà, quoi.
Ouais.
Et toi, Olivier, t'as d'autres projets, je crois?
Avec Obsession, on va jouer aussi chez quelqu'un que tu connais bien.
Je le reçois vendredi prochain d'ailleurs, chez Narcisse, le 7 décembre, grosse date.
Ouais, on salue bien Victor.
Ouais.
On sera en première partie des Fatal Picard, mais c'est pas que je veux pas que vous veniez, mais c'est déjà sold out en fait. Voilà. Donc ça va être une belle date pour nous.
Ouais.
Et puis. Il y a quelqu'un qui s'occupe pas mal de notre groupe Obsession, là. Elle fait du bon boulot. Donc je sais qu'elle est en train de nous trouver aussi pas mal de dates. Et je pense que l'année 2026, elle va être,
elle va être
cool.
On vous le souhaite.
Ouais.
Jérémy, ça te parle, la scène de chez Narcisse?
Ah oui, que ça me parle. Ouh là là. Oui, ça me parle parce qu'on y a joué plusieurs fois avec Flying. Et à chaque fois, des souvenirs mémorables. Enfin, j'adore.
Mm.
Moi, j'adore y aller, même les mains dans les poches, voir les concerts l'été, là, en plein air, dans le bar. C'est trop cool.
Ouais, c'est trop cool. Qu'est-ce que tu dirais un petit peu à cette nouvelle génération, par exemple, Olivier, son groupe Obsession et tous les autres qui se lancent dans la musique et qui ont envie de faire des choses? Quel message t'aimerais leur transmettre?
Croyez en vous. Voilà. Croyant en vous et puis les choses se font, quoi. Voilà.
Sortez-vous les doigts, quoi.
Ouais, mais croyant en vous, croyant en vous aussi, tu
en
vois.
En même temps, on peut faire les deux.
Croyant en vous, parce que tu sais, les critiques faciles, t'en essuies toujours plein. Des fois, elles sont très bonnes à prendre, tu vois. Mais le fait de croire en soi, c'est quand même primordial, quoi.
Comment on fait pour faire la part des choses, justement, quand on reçoit des avis multiples, surtout quand on débute, finalement, je pense qu'on est vraiment en mode éponge, quoi.
Ouais, alors nous, on vient quand même d'une génération, j'ai l'impression de parler comme un vieux dinosaure, là, mais où il y avait encore une presse écrite de qualité, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Là, aujourd'hui, si je ne m'abuse, il n'y a plus grand chose en termes de mag papier, tu vois. Moi, je les lis encore, tu vois, je lis encore Noise Mag, Rocard, j'aime encore bien feuilleter tous ces magazines-là. Mais les chroniqueurs, je trouve aujourd'hui, sont beaucoup plus beaucoup plus zen. Hein. Nous, de notre époque, ça taillait. Je me souviens quand, la première fois qu'on a eu une chronique dans un rock sound, tu vois, on avait trop peur qu'on se disait, oh là là, ils vont défoncer, notre accent anglais, elle est pourrie. et en fait, ouais, non, on a quand même toujours eu relativement des bonnes chroniques. Ça, ouais, ça fait plaisir. Après, quand on reçoit une mauvaise, bah ouais, forcément, on peut pas plaire à tout le monde. Mm. C'est vrai, t'as raison, c'est dur de pas le prendre en plein dans la gueule parce que tu t'investis tellement, tu vois, que mais ça c'est valable pour les critiques cinéma, pour
là,
les critiques,
bien sûr.
Voilà, tu vois, c'est pareil. Je pense voilà, faut juste croire en soi et être bien sûr de ce que tu veux faire et puis ça roule, quoi. Ouais.
Est-ce qu'il y a un rêve un peu fou que t'as pas encore réalisé avec la musique et qui te tient à cœur?
Un rêve un peu fou. Bah écoute, j'allais te dire peut-être faire un morceau avec avec des gens qui m'ont influencé, voilà.
Ouais.
Voilà.
Genre.
Ben genre ouais, genre des guests, quoi, tu vois. Alors j'ai déjà fait, hein, tu vois, genre moi je me souviendrai toujours, ça m'a marqué aussi au Fer Rouge. Il y a quelques années, les Burning, ils m'ont invité sur scène. Genre c'était pas prévu. Ouais. Ils m'ont appelé trois heures avant. Ah, salut Mimi, on joue à Nancy, tu viens, tu vas jouer trois morceaux avec nous, quoi. Et genre j'étais mais tendu comme une anguille, quoi. En plus de ça, ils avaient choisi des morceaux reggae que j'adore, hein, d'opposite, mais enfin c'est quand même pas trop ce que je joue, quoi. Donc voilà, donc mais refaire ça avec peut-être du plus gros poisson, ouais, ça serait un rêve de gosse, ouais.
Et toi, Olivier?
Bah moi, si je pouvais vivre ne serait-ce qu'un cinquième de ce que Mimi a vécu dans sa vie, ce serait déjà pas mal, hein.
Oh, t'as déjà fait plein de trucs, arrête.
Oui, non mais je...
Mais on vous le souhaite. On peut vous suivre sur les réseaux
Oui.
Si on a envie.
Oui, bien sûr, il y a une page Facebook, il y a encore un compte Bandcamp aussi où il y a toute la disco, ouais, des Flying.
Ouais.
Même sur... j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce qu'il a fallu que je bosse les morceaux, mais Deezer, Spotify, il y a quasiment la totalité de leur discographie.
Ah ouais.
Sauf les petites pépites, quoi, que Mimi se garde sous le coude et qu'il ne partage avec personne.
Ouais, bah ça, c'était le label Kicking Records. Hein, sur la fin, et sur la fin, il fallait aussi travailler avec son temps. Et donc, il a tout mis sur les plateformes numériques.
Okay.
Et j'en rebondis juste là-dessus une minute. Sur le Bandcamp du groupe. Donc, vous tapez Flying Nuts Bandcamp là, sur Internet. Ouais. Vous trouvez très facilement. Je tiens à le dire parce que c'est quand même important pour moi. On a mis toute la disco gratos. Vous
pouvez
tout. En fait, vous pouvez télécharger aussi. Tout est gratos, en fait. Voilà.
Du partage encore. Voilà.
Et donc là, je suis en train de redépoussiérer le merchandising et pour les ultra passionnés que nous sommes, qui voulons du vinyle, du CD, voilà, il y aura un stand le soir du 11.
Ah, bah ça fait plaisir. Est-ce que je sais pas, t'aurais envie de ressortir un album comme ça, Jérémy? Avec les Flying Donuts.
À faire du frais, c'est une bonne question. Ouais, bah ça titille. Écoute, tu vois, là, on cale les dernières répètes. Et puis, nous avons eu envie de faire quelque chose de frais. Donc, on a fait... Le premier morceau, c'est un nouveau. En fait, c'est une introduction.
Génial.
Pas de chant. Ouais. Mais il y a déjà du frais. Donc oui, ça donne envie. C'est sûr que de faire du frais, c'est cool. Mais on verra.
On verra. La suite au prochain épisode. J'espère que vous reviendrez dans les studios de Radio Guémozo pour nous raconter tout ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite?
Oh, bah, tout ce qu'il faut, hein, non? La santé déjà.
ouais, la santé.
L'énergie, les concerts.
Et la disponibilité.
Ouais, aussi.
La disponibilité, ok. Que les agendas concordent.
Voilà. C'est ça. Ouais.
Auditeur, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo. On se retrouve donc vendredi prochain dans une nouvelle de l'odeur du son. J'aurai le plaisir d'accueillir Victor de chez Narcisse. Hein, je transmettrai vos amitiés. On termine avec le dernier titre de cette émission, The Gateway des Pookies. Qui a choisi ce titre?
C'est moi qui l'ai choisi parce que les Pookies, ils jouent le 31 octobre à la Souris Verte avec Dale, donc mon autre groupe avec Julien et Laurent.
Ouais.
Et au passage, c'est mon frère à la batterie, il fait un remplacement.
Oh, voilà. Génial.
Donc ça va être une belle soirée aussi.
C'est génial. Merci beaucoup à tous les deux. En attendant, auditeurs, et bien c'est comme à chaque fois, tu prends bien soin de toi et tu prends soin des autres. Allez, kiss.